Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Dieu n'est pas un Dieu qui joue avec nous, mais Dieu sait parler à nos cœurs. Quelqu'un a donné un témoignage ce matin à Jean-Luc. C'était la première fois qu'il assistait à un de nos cultes, première fois qu'il venait à La Réunion. Et il a dit ce matin à notre frère, « J'avais l'impression que Dieu me parlait directement. C'est à moi qu'il s'adressait. C'est à moi qu'il parlait. » Et vous voyez, ça c'est l'objectif de la prédication. Trop fort dans les retours, baisse un peu s'il te plaît. C'est l'objectif de la prédication, c'est l'objectif de la parole de Dieu, c'est l'objectif de l'onction que nous réclamons. Lorsqu'une personne toute nouvelle vient pour la première fois et qu'elle dit « Dieu m'a parlé », là, on a marqué le point qu'il fallait. Après, la personne prend ses responsabilités devant le Seigneur, chacun, mais nous on a notre responsabilité. Et c'est important de l'accomplir. Quand nous l'accomplissons, Dieu il est tout de suite avec nous, avant et après, pour nous entourer dans ce travail. Alléluia. Alors il nous faut continuer, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Vous savez que nous sommes en train de distribuer ces affiches. Alors certains l'ont reçu, d'autres ne l'ont pas reçu, c'est normal pour l'instant. Parce que ça se fait par secteur, par quartier et pas par ville. Donc c'est pour ça que certains la reçoivent, d'autres pas encore, etc. Mais continuez et continuons à prier pour cet effort, ce travail, et je crois que ça va se répandre et se répandre encore. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, quelqu'un m'appelait et elle me téléphonait, j'étais au bureau un matin, elle me dit « Mais qui vous êtes ?» Je dis « Vous aimeriez savoir hein ?» Je dis « Qui vous ?» Elle me dit « Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « Pourquoi ?» Parce que on n'arrête pas d'entendre parler de vous en ce moment. Je dis, c'est bien. C'est exactement le but et l'objectif qu'on s'est fixé. Alors elle me dit, mais vous êtes protestant, vous êtes... Qu'est-ce que vous êtes exactement? Alors on a commencé une discussion pendant un petit moment et je lui ai expliqué qu'on était une branche du protestantisme, effectivement, et on a commencé à parler de différentes choses ensemble. Et c'est bien. C'est bon. L'important, c'est que une bonne publicité se fasse et Dieu, même s'il y a toutes sortes de choses bizarres qui se disent, l'important c'est que le Seigneur nous justifie et que ce soit lui qui parle directement au cœur. Amen. Parce que Dieu parle. Moi je tousse, mais lui il parle. Un bref résumé de ce que nous avons vu ce matin, parce que vous vous en souvenez tous bien sûr. Romains 10, 17. La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Jésus-Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Alléluia! Ça, c'est la base de la foi. Et nous avons vu, donc nous avons lu ces trois textes ce matin, et nous avons simplement dit que ces trois textes fondamentaux mettaient en évidence le même principe, c'est-à-dire, c'est Dieu qui suscite la foi dans les cœurs. C'est Dieu qui communique cette foi. Et puis nous avons vu que nous avions un besoin très important, deuxième point, que Dieu nous parle. Et c'est un point important, d'abord pour que nous puissions vivre par la foi. Alors Dieu a décidé de nous parler. Et ça, c'est quelque chose de vital pour nous. Partie B, nous avons vu cela également, que les conséquences tragiques de l'absence de la parole de Dieu, et nous nous en étions arrêtés là, lorsque Dieu ne parle plus, quel drame. Quel drame et quelle situation terrible lorsque Dieu ne nous adresse plus la parole. Nous avions pris un texte de l'Ancien Testament, nous avions parlé de Saül, de cet homme, de ce roi, à qui Dieu avait décidé de ne plus répondre, de ne plus parler, mais nous avons pris également ce contre-exemple de cet autre homme. Comment il s'appelait ? Samuel. Et que Dieu aimait particulièrement, parce que Samuel, dès sa plus tendre enfance, a appris à écouter la voix de Dieu. Et j'ai pas le temps cet après-midi, mais quand vous lisez la vie de Samuel, c'est un homme extraordinaire. Parce que, à la différence d'Élie, son père spirituel, celui qui devait l'enseigner, Samuel a de son plus jeune âge laissé la parole de Dieu travailler son cœur. Il a laissé Dieu lui parler, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il est resté un fidèle serviteur du Seigneur. Et quand il fallait reprendre, même les rois, comme le roi qui ont succédé après, David et d'autres, eh bien, il disait ce qu'il avait à dire. Il était envoyé de la part de Dieu et il proclamait tout simplement la parole. Alors cet après-midi, nous allons voir qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'entendre la parole de Dieu. Partie C. Il est aujourd'hui possible d'entendre Dieu nous parler. Et Christ est la manière par excellence que Dieu a choisie pour adresser sa parole à notre monde. Lorsque Christ n'était pas encore sur terre, il fallait donc que Dieu utilise des prophètes, que Dieu utilise des rois, oints, c'est-à-dire remplis de son esprit, afin que le message qu'ils déversent, qu'ils apportent, puisse également toucher les cœurs de ces hommes et de ces femmes. Aujourd'hui, il y a encore des prophètes, peu nombreux, il est vrai. Et certains qui parlent nous disent tellement de bêtises qu'on ne sait pas forcément toujours à qui se fier. Mais vous savez, quand il y a de l'argent trafiqué, de l'argent qui est faux, ça veut dire que forcément, quelque part, il y a du vrai. Dans les bijoux, c'est la même chose. Et bien sur le plan spirituel, c'est la même chose également. S'il y a des faux prophètes, cela veut dire aussi qu'il y en a certains qui sont réels, véritablement envoyés de Dieu. Et nous avons besoin d'écouter, de les reconnaître, d'avoir du discernement. Et nous avons aussi besoin de connaître de quelle manière Dieu peut-il également encore aujourd'hui nous parler. Mais Christ étant venu, il a donné sa vie et sa parole nous a été laissée. Aujourd'hui donc c'est un peu plus facile pour nous parce que nous pouvons comparer ce qui est dit à sa parole. Et nous savons que si ce que nous entendons ou même ce que nous disons n'est pas conforme à sa parole, alors ces choses ne viennent pas de Dieu. Christ est cette manière excellente. Jean a dit dans le verset premier de son premier chapitre dans l'Évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. » Christ est venu dans le monde. La parole a été faite chair. Christ est venu sur la terre. C'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui était la parole, s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas ici de réincarnation. La réincarnation n'existe pas, mais l'incarnation a existé une fois. Dieu s'est incarné une fois, étant la parole dans la personne même de Jésus-Christ. De là où Jésus était le Fils de l'homme, mais à la fois le Fils de Dieu. Et parce que la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, il est confirmé ici, venu du Père. Dans le premier chapitre aux Hébreux, nous avons un autre texte également. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Dieu affirme et confirme que dans cette nouvelle alliance, dans ce Nouveau Testament, à l'époque où nous vivons aujourd'hui, eh bien, Christ nous parle directement. Nous pouvons avoir un rapport et une liaison, nous pouvons avoir une intimité et un contact direct avec Jésus-Christ aujourd'hui. Nous l'avons vu un petit peu mardi. Dieu nous parle aussi à travers sa parole. Et pour que Dieu nous parle à travers sa parole, un, il faut prendre le temps de la lire, et une fois que nous l'avons lue, il faut prendre le temps de la méditer. Méditer, ça veut dire réfléchir. Réfléchir un temps. J'explique pourquoi, parce que moi, quand je suis arrivé dans une église, pendant longtemps, je ne savais pas ce que voulait dire le mot méditer. J'entendais les gens dire, il faut étudier la parole de Dieu. J'entendais des pasteurs dire, il faut lire ta Bible, et puis il faut la méditer. Et c'est vrai que je n'avais pas réfléchi que j'aurais pu prendre un dictionnaire, mais pendant longtemps, j'entendais dire, il faut méditer. J'ai dit, mais ça veut dire quoi méditer? Il faut réfléchir. Il faut prendre le temps de laisser cette parole pénétrer notre cœur et la laisser inonder notre vie. Et comme c'est extraordinaire de voir ensuite le résultat qu'elle procure dans notre vie. Alors Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle également, je vais le passer rapidement, on aura l'occasion de l'aborder un autre moment, par son Saint-Esprit. Quel que soit le moyen choisi, de toute façon, nous avons besoin, toi et moi, que Dieu nous parle. C'est indispensable. Tu ne peux pas vivre dans cette vie aujourd'hui tant que Dieu ne te parle pas. Sinon, tu as une vie qui sera médiocre de toute façon. Il te manquera de toute façon toujours quelque chose, quelque part. Il y aura un manque, il y aura un besoin. Lorsque Dieu commence à te parler, alors il y a des choses extraordinaires qui se mettent en place. Amen. Alors on va voir quelques exemples de personnes à qui Dieu a parlé. Et nous allons voir ensemble que les personnes citées en exemple maintenant ne sont pas des gens mystiques. Ce ne sont pas des gens bizarres. Ce ne sont pas des gens qui ont reçu une onction toute particulière et Dieu s'est adressé qu'à eux parce que c'était une élite. Pas du tout. C'est des gens tout à fait ordinaires, comme vous et moi. Excusez-moi de dire vous êtes ordinaires, mais nous sommes ordinaires, non? Peut-être j'ai blessé quelqu'un. Quelqu'un il est venu tout à l'heure peut-être en disant « Moi je suis quand même quelque chose de particulier. Je suis extraordinaire. » Et là il est en train de me dire « Je suis ordinaire. » Nous sommes des gens ordinaires, mais avec des gens ordinaires, Dieu fait des choses extraordinaires. Et c'est ça qui est important. On est des gens avec nos faiblesses, on est des gens avec nos difficultés, on est des gens avec nos problèmes, on est des gens avec nos manquements, c'est vrai, on a tout ça. Mais avec tout ça, Dieu fait des choses formidables. Et c'est pour ça, lorsque nous apprenons à entrer dans ce contact avec Dieu, eh bien, il sait comment nous utiliser. La seule chose qui va rassembler et unir tous les exemples que nous allons voir cet après-midi, elles avaient un besoin profond, particulier, que Dieu s'adresse à elles. C'était vital. C'était indispensable. Je pourrais même dire que si Dieu ne le faisait pas, peut-être ces personnes seraient mortes. Elles avaient besoin que Dieu leur parle. Alors, au travers de leur témoignage et de leur vécu, nous allons voir que nous allons avoir la confirmation que quand Dieu parle, sa parole est véritablement vivante. Et nous allons voir que ce Dieu relève, ce Dieu instruit, ce Dieu console, ce Dieu dirige. Notre Dieu nourrit. Il révèle et fait connaître sa volonté pour que nous puissions l'appliquer. Nous allons voir qu'à travers ces différents exemples, Dieu est capable de faire tout cela aujourd'hui encore dans notre vie. Alors, comme nous ne sommes pas misogynes, on va commencer par une femme. Dieu a parlé aux femmes. Dieu est bon, hein? Il a même parlé aux femmes. Ah, plusieurs femmes. Oh, bien avant Marie. Bien avant déjà. Dieu s'est adressé aux femmes bien avant Marie. Ah non, c'était même dès le jardin d'Éden d'ailleurs, il a commencé. Mais là, il était obligé quand même. Hein. Alors, on va pas prendre cet exemple-là, mais on va aller un peu plus loin. Agar. On va avancer parce qu'autrement, je vais avoir des problèmes à la sortie. Agar, c'est une femme qui a été maltraitée. Elle était une servante. Et elle a été maltraitée vraiment par Sarah à cause de son mépris envers elle. Et à cause de cela, elle a pris la fuite. Elle est partie. Parce qu'elle pensait que c'était pour elle la meilleure solution. Regardez ce qu'il est dit dans Genèse 6. Abraham ou Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante et en ton pouvoir agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où tu vas ?» Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Alléluia. Voyez dans ce texte que nous venons de lire à cet instant, on voit une situation tragique. On voit une femme qui est maltraitée. Une femme qui, il faut reprendre quand même tout le contexte, dans une situation très particulière, Dieu a fait une promesse à un homme et à une femme, Abraham et Sarai, sa femme. Seulement voilà, cette promesse n'arrive pas. Dieu a promis qu'ils auraient un enfant, et pas n'importe quel enfant, un garçon, leur premier-né. Seulement, ça fait des années que cette femme n'est plus en âge d'avoir des enfants aujourd'hui. Et elle finit par ne plus croire à cette promesse. Voulant aider un petit peu Dieu dans sa situation, c'était la coutume à l'époque, elle va prendre sa servante et elle va lui dire, bah tiens, tu as qu'à coucher avec mon mari, il y aura un enfant et ça sera la promesse qui sera accomplie. Et c'est de cette manière que ça va se passer. Erreur d'ailleurs qui nous suit jusqu'à ce jour, encore aujourd'hui. Suite à cela, il y a du mépris. Suite à cela, voyez, quand la volonté de Dieu n'est pas faite, ou quand on veut aider Dieu à la faire, on n'est jamais dans la paix ensuite. On n'est jamais dans la sérénité. Parce que bien sûr, de cette situation, ça ne va pas se faire sans souffrance. L'adultère, même lorsqu'il est consenti par les deux côtés, ne se passe jamais sans souci. Ça ne se passe jamais sans blessure. Cette partie d'intimité que Dieu a réservée pour le couple marié, lorsqu'il y a transgression des lois divines, eh bien, il y a forcément des traces, et des traces qui marquent les cœurs et les vies. Et à partir de ce moment-là, il y a de la haine. À partir de ce moment-là, il y a de la jalousie. À partir de ce moment-là, il y a des choses terribles qui vont se passer entre ces deux femmes. Et il y a là comme une rivalité. Il y a celle qui est la femme du mari, et puis, quelque part, il y a la maîtresse, celle qui a prêté son corps pendant quelques instants pour qu'un enfant naisse et qu'un fils vienne. Et cette situation, vous voyez, la science n'a rien inventé. Hein. Quand on revient quelques millénaires avant, il y a déjà beaucoup de choses qui existaient à l'époque. Mais les traces et les blessures existaient aussi. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on utilise des mots scientifiques que ça enlève les douleurs des cœurs. Ça ne les remplace pas. Et les douleurs sont toujours là. Ça, c'est un autre sujet. Ici, nous voyons la haine, nous voyons l'amertume, nous voyons même la maltraitance, l'envie de se venger. Et ici, nous voyons Agar qui connaît Dieu également. Nous voyons Agar qui a une relation avec Dieu. Et parce que la situation devient insupportable alors qu'en tant que servante, elle décide de fuir. Et un beau matin, alors que la situation est douloureuse, elle quitte le camp, elle dit « Maintenant c'est fini, je m'en vais, je pars dans le désert, et là, je vais mourir. » Ce qui est formidable, c'est que peu importe la situation où nous nous trouvons, Dieu la connaît à l'avance. Que vous réfléchissez bien à ça. Peu importe la difficulté dans laquelle tu vas te trouver, où tu te trouves, Dieu la connaît déjà. Il sait déjà ce que tu vis. Il connaît déjà ce que tu vis. Et ici, nous avons une attitude d'Agar qui est vraiment formidable. Parce que là où elle part, Dieu la trouve. Et remarquez une chose, c'est que l'ange, quand, et c'est l'ange de l'Éternel, on pourrait dire entre guillemets le Seigneur Jésus, il s'adresse à elle directement. Déjà à cette époque-là, il était là. Et il ne s'y adresse pas n'importe comment. Il l'appelle par son nom. Il sait qui elle est et ce qu'elle fait. Agar, servante de Sarai, je te connais. Je sais qui tu es. D'où tu viens? Et où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et cette femme parle. Elle explique sa situation. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Dans ce contexte, nous voyons ici que parce que Dieu la trouve et parce que Dieu lui parle, alors elle va en déduire que puisque Dieu lui a parlé, c'est que tout simplement, il la voit et il la connaît. Alors elle a confiance. Voyez, lorsque Dieu s'adresse à nous, il y a cette confiance qui s'établit. Là, il y a une formidable, tout simplement, déduction de foi. L'ange lui parle, elle croit en cette parole. Parce qu'elle sait que ce n'est pas n'importe quel ange. Elle sait que Dieu se révèle dans sa vie. Nous pouvons trouver des situations dans notre vie, parfois même de persécution. Nous pouvons trouver des moments pénibles, des vies traversent des situations douloureuses, et peut-être ne pas toujours réaliser que Dieu te voit. Et peut-être tu es tout seul ou toute seule dans tes problèmes, tout seul ou toute seule dans tes situations, et tu as l'impression que peut-être c'est ton travail. Un coup on te dit un truc, un coup on te dit un autre truc. J'ai vécu ça pendant un temps, et c'est difficile de vivre. C'est une forme de persécution. C'est une forme d'abus, abus de confiance. Et on te dit un jour une chose, le lendemain on te dit une autre. Et toi tu ne sais plus sur quel pied danser, tu ne sais plus quoi faire. C'est dans la vie professionnelle comme parfois dans la vie familiale. Ce qu'il faut que tu saches tout simplement, c'est que Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ceux qui te parlent de cette manière, ceux qui te, entre guillemets, persécutent verbalement de cette façon. Alors, à l'instar de Agar, agis de la même manière. Si Dieu te parle, si tu ressens que Dieu t'adresse quelques paroles qui pourraient t'encourager, aie cette confiance. C'est parce qu'il te voit. Et même quand tu n'es pas dans ce lieu, que demain matin tu vas te trouver de nouveau dans ton bureau avec tes chefs, tes sous-chefs et tout ça, et que les problèmes peut-être vont recommencer, là où tu te trouveras, assise à ta place ou derrière ta machine, Dieu te verra et il sera avec toi. Il n'y a pas un endroit où il ne t'abandonnera, mais il est là, avec toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Et j'aimerais faire cette petite parenthèse. Parce que quand tu sais qu'il y a quelqu'un de plus grand qui gère ta situation, alors de face, on peut te dire plein de choses. Mais entre nous, et entre toi et moi, peut être parfois indifférent à toutes ces choses. Parce qu'au-dessus de la personne qui se prend pour ton responsable, et je ne dis pas qu'il ne faut pas être soumis à ses responsables, ce n'est pas cette idée-là. Je prends bien le contexte de personnes qui voudraient abuser de nous d'une certaine manière et qui inflige parfois certaines attitudes. Sache que quand même il y a quelqu'un qui te parlerait avec autorité, avec sévérité, et un jour elle te met là, un jour elle te met ailleurs, etc., au-dessus de lui ou au-dessus de cette personne, il y a celui qui gère et qui conduit toutes choses dans ses mains. Et quand toi tu sais que tu es directement sous les ordres du grand roi des rois et du seigneur des seigneurs, alors peu importe ce que peuvent dire après les autres, il y a cette confiance qui est dans ton cœur, mais ça tu le gardes pour toi. Tu ne vas pas le dire à lui qui te parle de sa grande hauteur que tu as ton roi des rois qui gère ta vie. Parce que là, tu risques d'avoir un peu plus de soucis. Et dans ton cœur, tu as cette espérance. Dans ton cœur, tu as cette conviction. Et tu sais, j'ai vu à plusieurs reprises des situations où de face, on m'a dit telle et telle chose. Et combien j'ai vu par Dieu lui-même ces situations être complètement retournées. Comme une crêpe. Faites retourner les crêpes des fois. Moi je les fais retourner les crêpes, mes enfants ils aiment bien. Vous savez pourquoi? Parce que des fois il y en a qui se collent au plafond et... Une fois j'ai lancé une crêpe. Faut pas prêcher quand il y a mes enfants là parce que... Une fois j'étais avec mon frère et je faisais sauter les crêpes comme ça. J'étais gamin, je devais avoir je sais pas 12-13 ans. J'avais envie de manger des crêpes, alors on a fait des crêpes. J'ai appris à cuisiner très tôt. Hein. Et on faisait sauter les crêpes. Et un jour, il me dit, allez, vas-y, fais sauter les crêpes. Et je me souviens, c'était mon petit frère Guillaume, qui est dans le ministère maintenant à Toulouse, qui me dépasse d'une tête. Et il était encore assis sur les chaises en bois, vous savez, de l'époque. Là. Alors, il me dit, fais sauter. Alors moi, je suis là, à côté du feu. Et bien sûr, à 13 ans, je fais sauter, il n'y a pas de problème. La crêpe, je vais te la faire sauter, tu vas voir. Et je prends la poêle comme ça, et je fais sauter la crêpe. Et une fois, et deux fois, et trois fois. Le seul problème, c'est que la troisième fois, elle ne redescendait pas, je ne savais pas où elle était. Et je regarde partout dans la cuisine, alors bien sûr, mes yeux se lèvent, pas de crêpe. Et d'un coup, j'entends mon petit frère faire « Et je me retourne, la crêpe lui était tombée sur les genoux, était en train de lui brûler la jambe. Ça va beaucoup mieux depuis, hein. Je vais essayer de revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que... Eh bien, Dieu change de situation parfois de la même manière, comme une crêpe. On vous dit plein de choses comme ça devant vous, de telle manière, on vous met des choses dans votre esprit, dans votre tête, et on pense vous faire du mal. Mais c'est pas en comptant sur celui qui tient notre vie dans ses mains. Parce que quand on a espérance en celui qui décide toutes choses de notre vie, il n'y a personne d'autre qui peut alors à ce moment-là interférer. Parce que c'est le roi des rois qui conduit toutes choses dans notre vie. Alléluia! Et Agar, eh bien, elle savait cela. Et l'ange, vous remarquerez, lui a demandé une seule chose. C'est étonnant d'ailleurs ce qu'il lui demande, hein. Humilie-toi. C'est ta servante. C'est ta maîtresse, pardon. Humilie-toi. Et sous sa main, et moi je vais te bénir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est retournée. Elle a repris sa place. Et Dieu, effectivement, a répondu à cette promesse, à cette bénédiction. Agar a cru à cette parole et la parole s'est accomplie. Amen. On va prendre un autre exemple. On va passer à David. David, partie D, est dans la foi. Alors qu'il est en plein combat, il y a là une bataille qui est engagée. Et alors qu'il doit livrer cette bataille contre les Philistins, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'il va consulter l'Éternel, comme Saül, ce matin. La petite différence, c'est que dans ce cas-là, Dieu va lui répondre. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Très souvent, on prend des rendez-vous avec un responsable spirituel, Jean-Luc, ou un pasteur, pour aller lui poser des questions. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'avant de venir nous voir, vous avez posé la question à Dieu? Parce que si vous posez de manière très simple et très correcte votre question à Dieu, il y a beaucoup de chances pour qu'il vous réponde avant nous. Et même, il y a encore beaucoup plus de chances pour qu'il vous réponde beaucoup plus juste que nous. Ouais, j'ai l'impression que ça vous plaît pas trop, ça. Et pourtant, c'est la vérité. Souvent, on a des difficultés, on a des problèmes, souvent on est dans la prière, mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est ça. David alla consulter le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, dans cette situation? Tu vois, là, ils sont encore contre nous et on nous cause des problèmes. Est-ce que je dois y aller, pas y aller? Plusieurs fois, Dieu a répondu, oui, vas-y, tu vas les battre. Plusieurs fois, il y est allé de front, il les a battus. Et là, c'est étonnant, Dieu lui dit, non, non, là, tu montes pas. Mais d'habitude, tu montes pas. Là, tu restes où tu es, et puis, tu tournes par derrière. Et tu vas arriver vis-à-vis des mûriers. Et là, tu vas ensuite entendre un bruit de pas. Quand tu entends ce bruit de pas, tu te manies. Parce que c'est Dieu qui marche devant toi. Il te délivre là. C'est là que ça va se passer. Lorsque nous, on a une situation particulière, si nous commencions par en parler au Seigneur, si nous commencions par lui dire tout la situation, comme David a fait pour cette situation-là, eh bien j'aimerais vous dire que Dieu va vous parler avec beaucoup de précision. Si vous priez comme nous avons montré cela mardi soir, c'est pour ça que je vous parlais de prendre la cassette, ceux qui n'étaient pas là, pour bien prendre, pour bien comprendre. Si vous vous engagez à prier de cette manière-là, eh bien vous n'allez pas tarder à voir Dieu vous répondre. Et non simplement vous répondre, mais vous donner des directions et des voies tellement précises que vous ne pourrez plus vous tromper. Parce que ça sera d'une précision et d'une clarté infaillible. Et ça, il faut apprendre à marcher avec Dieu de cette manière-là, afin que Dieu te parle de cette façon-là. Oh, Dieu ne parle pas toujours de cette façon-là, c'est vrai. Les choses ne sont pas toujours aussi claires. Pourquoi? Il y a différentes raisons et je n'ai pas le temps cet après-midi. Mais il y a des moments, c'est vrai, où c'est beaucoup moins clair que cela. Mais il y a souvent aussi des moments où c'est très clair, comme cela. Mais si vous ne prenez pas le temps d'écouter Dieu, si, comme je disais la dernière fois, vous vous mettez en prière et que la seule chose que vous faites, c'est vous parler, vous parler, vous parler, vous parler, vous parler, vous parler, et quand vous avez fini de parler, vous partez, quand est-ce que vous voulez que Dieu vous parle et vous répondre à toutes les questions que vous lui avez dites, posées? Aujourd'hui, pour moi, parler à Dieu, ça ne prend plus beaucoup de temps. Et je trouve que plus ça va, moins ça prend de temps. Parce que vous savez, finalement, pour dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur, ben c'est vite fait, hein. Pas la peine de s'étaler, hein. Pas la peine de prendre 4 chemins différents pour arriver au but. Comme Dieu connaît toute situation, c'est assez rapide et assez facile de dire tout ce qu'il y a à dire à Dieu. Et ça ne me prend que quelques minutes aujourd'hui, chaque jour. Ce qui est plus long, par contre, c'est de prendre ce temps pour entrer en contact avec lui, et de dire, voilà Seigneur, je t'ai exposé mon problème, je t'ai exposé ma situation. Maintenant j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu t'adresses à moi. J'ai besoin que tu me donnes des choses précises, tu vois. J'ai besoin de prendre une direction, mais je ne peux pas me tromper. J'ai des directions à prendre pour ma vie. J'ai des directions à prendre pour l'Église. Des directions parfois à prendre pour les frères, les sœurs, ensemble, par la prière. Et je ne veux pas me tromper. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix et de savoir ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Et c'est ce temps-là qui est très particulier et privilégié. Et là, si vous prenez un temps d'attente, un temps de silence, un temps particulier, et que vous laissez Dieu, par son Esprit Saint, commencer à mettre dans vos pensées et dans votre cœur des mots, des phrases, Dieu va vous répondre. Et ce ne sera pas le fruit de votre imagination, parce que vous serez dans un temps particulier de communion avec Dieu. Donc votre imagination sera déconnectée pendant un temps. Vous allez laisser Dieu vous parler. Et en prenant l'habitude de cela, eh bien on prend l'habitude, lorsque notre imagination nous dit des choses, et lorsque c'est vraiment Dieu qui nous parle. Parce que Dieu exerce nos oreilles, nos mains, nos cœurs, à sa voix et à l'écoute de sa parole. Alors, aujourd'hui, Déjà ? C'est pas grave, on va s'arrêter là, on continuera mardi. Hein. Zeka dit non ? Vous avez une dizaine de minutes encore alors ? On pourra pas terminer de toute façon, hein ? Mais parce qu'il y a plusieurs sujets, j'en ai déjà sauté deux, mais comme David, apprenons, lorsqu'on a une situation, quelle qu'elle soit, ça c'est un truc qui est bien. Avant, peu importe la situation, vous êtes tous assis, il n'y a pas de raison. Avant d'apporter la situation, quelle qu'elle soit, peu importe le problème que vous avez, avant même d'en parler à votre femme ou à votre mari, ou à un frère ou à une sœur, avant, peu importe la situation, commencez à en parler au Seigneur. Commencez à lui parler à lui de cette situation. Et quand vous commencez à parler au Seigneur de cette situation, commencez à dire, Seigneur, vous lui explosez rapidement. Prenez pas 2 heures comme si vous étiez avec le pasteur. Rapidement, pendant quelques minutes. Lui connaît déjà tout. Moi non, c'est vrai, vous avez besoin de prendre 2 heures pour qu'on comprenne bien, pour que... Voilà. Mais lui connaît déjà tout. Donc vous prenez quelques minutes, vous exprimez les choses telles qu'elles sont. Et une fois que vous les avez exprimées, vous attendez. Et vous prenez un temps d'écoute et d'attente devant Dieu. Et vous dites maintenant, Seigneur, comme Samuel l'a dit ce matin, ton serviteur ou ta servante, eh bien t'écoute. Je suis à ta disposition. Prenez un moment. Prenez un temps. Vous êtes tout seul avec le Seigneur. Eh bien, vous allez voir que dans ce moment-là, Dieu va commencer à parler à votre cœur. Et vous allez voir que Dieu va vous donner des réponses. Il va vous donner des mots. Il va vous donner des phrases. Il va vous donner des oui ou des non. Mais il va s'adresser à vous de manière simple. Peut-être même qu'au départ, ça va vous surprendre. J'aimerais dire que ce que j'enseigne ici, il faut l'enseigner aux enfants aussi. Parce que les enfants entendent la voix de Dieu. Les enfants écoutent, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils y croient, tout simplement. Ils sont convaincus que Dieu parle. Alors ils sont à l'écoute de Dieu. Et moi, quand je vois un enfant revenir d'un club, d'un culte pour enfants, et qu'un gamin va dire à ma femme, ou à un moniteur, ou lui dire, mais Dieu m'a parlé aujourd'hui. Je sais que Dieu m'a dit quelque chose. Ça correspondait à un besoin. Dieu m'a parlé. Quand vous avez un enfant qui vous dit ça, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Et Dieu le fait avec les adultes de la même façon aussi. Mais apprenons nous-mêmes, avant de dire quoi que ce soit, à en parler. D'ailleurs, j'ai même remarqué une chose. Lorsque nous commençons à en parler à des personnes, à des tierces personnes, alors forcément, quand vous parlez de quelque chose, il y a du retour. Eh bien, vous remarquerez que entre guillemets, on est comme pollué dans notre esprit. On ne sait plus trop quoi penser. Des fois, on ne sait plus trop où on en est. Parce qu'on pensait quelque chose, puis la personne va nous dire, ben non, finalement. Alors c'est vrai que parfois, ça peut nous éclairer. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas partager avec des personnes. Bien au contraire, sinon je n'aurais pas dit ce matin qu'on allait monter un centre d'accueil et d'écoute. On a besoin de partager, c'est vrai. Mais avant de partager avec qui que ce soit, parlez-en à votre Seigneur. Vous en parlez avec lui et avec lui seul. Et vous prenez un temps. Et vous verrez que votre esprit ne sera pas pollué par toutes sortes d'autres pensées ou toutes sortes d'autres paroles. Dieu vous apportera la réponse qu'il vous faut. Dieu vous donnera la parole qu'il vous faut. Dieu vous donnera la direction qui vous convient. Celle que lui a prévue déjà d'avance pour vous. Alléluia. Amen. Faites cette expérience et vous verrez que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, je le fais. Et vous savez ce que je fais ? Quand Dieu me parle, je prends des notes. Parce que lui, il n'oublie pas, mais moi, souvent. Alors, souvent, je prends des notes. Dans mon ordinateur, j'ai un fichier spécial et je note ce que Dieu me dit. Je mets la date. Je mets exactement ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a... Et c'est de cette manière-là que, lorsqu'il m'a appelé au ministère, et qu'une femme en Espagne qui ne me connaissait pas a commencé à prophétiser sur ma vie, a décrit toute ma vie passée, présente et future. Et qu'aujourd'hui, pratiquement 95% de cette prophétie s'est accomplie. Si je ne l'avais pas noté, j'aurais peut-être pris que quelques brides. Je sais ce qu'elle m'a dit. Et je peux comparer aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand Dieu me parle, je note. Je prends des notes. Et puis dans les semaines, les mois qui viennent, je me rappelle ce que Dieu m'a dit. Et je regarde si c'est accompli, pas accompli. Pourquoi ce n'est pas accompli? Est-ce que je n'ai pas pris le bon chemin? Est-ce que je me suis trompé? Et ça nous permet de rester dans le chemin et dans les voies du Seigneur. Amen. Allez, un dernier, vite fait. J'hésite entre deux. On va prendre le suivant. Pierre. On va terminer avec celui-ci. Il est souvent dit que Pierre a marché sur l'eau. Et c'est vrai que Pierre a marché sur l'eau. Il y a cette situation où tous les disciples sont dans la barque. Vous vous souvenez? Tous les disciples sont dans la barque. Jésus les a envoyés la veille. Et là, c'est la nuit, il fait sombre. Et Jésus a décidé de les devancer. Alors d'une manière tout naturelle, il marche sur l'eau et il les dépasse. Et là, il y a tous les disciples qui sont là, ils voient Jésus au loin et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là qui marche même sur les eaux? Et là, ils commencent à avoir peur et ils disent, mais c'est un fantôme, c'est... Ils sont effrayés dans leur cœur. Et souvent, on parle de Pierre qui est sorti de la barque et qui a commencé à marcher sur les eaux. Moi, j'aime à dire aujourd'hui que Pierre a marché sur la parole de Dieu. Pourquoi il est sorti de la barque? Parce que Jésus l'a appelé. Pourquoi il a commencé à marcher sur les eaux et que son pied a tenu? Parce que Jésus lui a donné une parole de confiance. Jésus lui a donné une parole de foi. Viens, il lui a dit. Viens. Et Pierre est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur les eaux pour aller jusqu'à Jésus. Il a marché sur les eaux, c'est vrai, mais il a marché sur la parole que Dieu lui avait donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux aussi marcher sur l'eau. J'explique. Alors parce que je vous vois tous à la sortie, aller à la Loire, là, et je serai obligé d'aller vous repêcher après. La parole que Jésus lui a donnée ici, c'était quoi? Une invitation. Jésus invite à venir. C'est l'exemple type de la parole de foi qui va s'appuyer sur la parole de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi je dis que nous pouvons marcher sur les eaux? Parce qu'aujourd'hui, Dieu va nous utiliser dans des circonstances, dans des ministères. Dieu va nous utiliser, chacun d'entre nous, tel que nous sommes. Même si ça fait que 2-3 fois que tu viens, même s'il semble que dans ta vie, il y a plein de problèmes, il y a plein de difficultés, ça n'empêche pas ça. Et moi-même, je préfère. C'est pourquoi? Parce que j'aime quand les vases viennent et qu'ils sont vides, parce que Dieu peut les remplir. Les vases qui sont pleins de 50 ans de ministère, de 50 ans d'église, de 50 ans de réunion, et qui sont gros comme ça, et qui font rien de ce qu'ils ont reçu, ça sert pas à grand chose. On fait de la boulimie spirituelle. Et après, on est dans un état épouvantable. Ce que Dieu aime, c'est qu'on puisse se nourrir de sa parole. J'aurais dû mettre une photo là, mais je l'avais plus. Ce que Dieu aime, c'est qu'on se nourrisse de sa parole, mais ensuite faut éliminer. Ben oui. Sinon, vous faites que de grossir. Et vous allez finir difforme. Vous prenez la parole, vous vous nourrissez de la parole, et ensuite vous éliminez. Comment? Mettez en pratique la parole. Et vous allez porter du fruit. Et ça va vous dépenser. Même il y a même parfois, il semblerait que vous aurez plus d'énergie. Mais c'est pas grave. Vous retournez à la parole, et la parole de nouveau va vous nourrir. Alors il y a la parole de tous les jours, il y a la mise en pratique de tous les jours. Quand Dieu nous demande de marcher selon la vie de l'Esprit, selon le fruit de l'Esprit, ce que vous mettez tous en pratique chaque jour, la paix, la patience, la bénignité, la foi, la confiance, etc. Toutes ces choses que vous exercez avec beaucoup d'aisance chaque jour. J'arrête. Et donc, toutes ces choses-là, c'est une parole que vous mettez en place, c'est que c'est la parole de Dieu, c'est la doctrine, c'est ce que Dieu nous demande. C'est vrai. Ça, c'est une parole. Après, Il y a un là avec un L majuscule dans ce sens-là. La parole que Dieu te donne pour ta vie, pour ton service, pour lui, pour ton ministère, toujours pour lui, pas pour toi, pas pour te faire du bien, pas pour te faire voir parmi les autres. Non, ton service par rapport à ton Seigneur, par rapport à ton roi, par rapport à ton Dieu, ce qu'il te demande de faire. Et là, tout un chacun, nous recevons des choses. Et c'est dans le domaine spirituel, comme dans le domaine social, comme dans le domaine matériel, ou comme dans le domaine financier. Vous voyez, dans différents domaines, il y a des gens qui reçoivent une parole de Dieu pour donner. Ils ont reçu de la part de Dieu uniquement de soutenir l'Église, par exemple, de soutenir les ministères, et de donner. Dieu leur donne, alors eux, ils donnent, tout simplement. C'est leur service. Nous, on n'a pas trop l'habitude, parce que l'argent, c'est tellement un sujet tabou, dans nos assemblées, en France en général, pas simplement dans l'Église, mais en France en général, que surtout, il ne faut pas en parler. Mais la Bible nous parle de cela. Il y a le ministère, le service de donateur. On va l'étudier un jour. Parce qu'il y a cela, mais il y en a d'autres également. Et Dieu va te donner une parole, peut-être c'est de travailler parmi les enfants. Donc dans cette parole que Dieu va te donner, il faut aller plus loin. Parce que Dieu va travailler ton cœur. Dieu ne nous appelle pas à quelque chose de vague, mais Dieu précise petit à petit ce à quoi il nous appelle. Il ne faut pas non plus rester assis pendant des siècles en attendant que tout se passe. Nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, nous devons mettre notre don en action pour lui. Et ça, c'est toute l'Église qui doit le mettre en action pour le Seigneur. Il n'y a pas que des musiciens dans une Église. S'il y avait des musiciens, on ne pourrait rien faire. S'il y avait des pasteurs, on ne pourrait rien faire non plus. Heureusement qu'il y a cette diversité en nous. Heureusement. Il y en a un qui reçoit pour travailler parmi les pauvres, il y en a un autre qui reçoit pour travailler dans le social, il y en a un autre qui reçoit pour vendre des chocolats, il y en a un autre qui reçoit pour ceci, il y en a un autre qui reçoit pour cela. Et c'est tout cet ensemble qui fait la grandeur de l'Église. Mais oui, la grandeur, la force. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu reçois la parole et tu as commencé à marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce que la parole que tu vas recevoir au départ, tu vas peut-être dire « Ouh là 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 là, tu m'appelles à ça, mais je n'y arriverai jamais. » Certainement, Dieu s'est trompé, ce n'est pas moi qui l'a dit. Je l'ai dit le premier lorsqu'il m'a appelé au ministère. Je dis « Moi, prêcher, je ne vais jamais m'en sortir. » Je n'ai pas la capacité intellectuelle de le faire. Le français, c'est quelque chose que j'ai horreur. D'ailleurs, certains s'en remarquent encore aujourd'hui. Heureusement, ils me corrigent mes fautes d'orthographe. Parler, ça va, mais le reste... Je dis non, je n'y arriverai pas. Et je ne me serais pas imaginé avant de démarrer qu'un jour je sois pasteur d'une église. Et quand j'étais jeune et enfant, j'étais encore bien loin de m'imaginer cela. Et mes parents et ma famille aussi d'ailleurs. Ils m'ont vu dans bien d'autres choses, mais pas là. Dieu avait prévu quelque chose. Il m'a dit... Tu vas marcher sur les eaux du ministère. Mais Seigneur, comment? C'est pas mon problème, ça, moi, de savoir comment. Si lui le dit, moi, je le fais. Et je marche. Non, pas là, parce que là, je vais tomber. Mais sur ce qu'il m'a dit, je crois à sa parole. Quand il m'a demandé de lancer la sentinelle de prière, c'est vrai que pendant des semaines, j'ai dit non. Un autre, c'est un super projet, mais va en trouver un autre. Parce que je m'imaginais déjà après les problèmes, le travail, les difficultés, les oppositions, les combats et tout le reste, et tout le reste. Mais Dieu m'a dit, c'est à toi que j'ai donné ça. Donc c'est toi, il faut qu'il y aille. Il n'y a pas un autre, c'est toi. Ou j'aurais pu faire ma tête de bourrique, comme je fais parfois, et à ce moment-là, eh bien, certainement il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Ça se serait fait différemment. Mais j'aurais marché à côté du plan de Dieu. Et moi, j'aurais été déçu et frustré certainement toute ma vie parce que je n'aurais pas accompli ce que Dieu me demandait à moi de faire. Et pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Si je parle de moi, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est pour vous faire comprendre que toi aussi, tu peux recevoir une parole. Toi aussi, tu peux savoir quel est le don que Dieu va te donner, quel est le service dans lequel il te veut, ce que tu vas accomplir pour lui. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas parler dans son cœur de certaines choses, mais ça brûle là au fond de ton cœur. Tu sais que tu as envie de servir Dieu, tu sais que tu as envie de faire quelque chose, ça brûle au fond de ton cœur, mais tu n'oses pas en parler. Il y a aussi une mauvaise méthode et une mauvaise manie chez nous. Quand je dis chez nous, ce n'est pas ici, mais c'est en règle générale au niveau de l'Église. C'est que ceux qui ressentent quelque chose, alors qu'on attende des confirmations, oui. Qu'on attende que Dieu confirme certaines choses, il n'y a pas de problème. Mais attends pas 150 ans. Viens aussi en parler à un responsable. Viens m'en parler. Qu'on partage ensemble ce que tu as sur ton cœur. Comment croyez-vous que les activités dans l'Église et au niveau de la ville, au niveau social, vont pouvoir se mettre en place? C'est moi qui vais tout faire? Certainement pas. Quand je regarde des églises qui ont vraiment beaucoup progressé ces dernières années, je me rends compte d'une chose. À chaque œuvre, spirituelle ou sociale, peu importe, à chaque œuvre, Dieu a appelé un homme ou une femme dans laquelle ou dans lequel il a mis une parole et une conviction. Et la personne savait qu'elle était appelée à s'engager dans ce travail. Ensuite, l'Église a encadré, entouré, aidé, soutenu, et l'œuvre s'est développée. Et c'est comme cela qu'il y a, dans certains endroits, des gens qui font des banques alimentaires et font pratiquement plus de 5000 repas par mois, et plein d'autres choses encore. Pourquoi ? Parce que à l'origine, ce n'est pas le pasteur qui a eu l'idée, mais il y avait quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Et quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, alors Dieu donne un ministère à quelqu'un. À nous ensemble ensuite d'en discuter, de cadrer, d'aider, de soutenir, d'encourager et de fortifier. Je ne me moquerai jamais de quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Voilà, j'ai reçu à cœur ce travail ou ce travail. » Même si au départ ça paraît insensé. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas à juger ce que Dieu met dans les cœurs. Et au départ on a l'impression que c'est insensé et Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens qui semblent insensés. C'est comme cela qu'on a vu des gens qui parfois, à cause d'une mauvaise attitude d'un responsable spirituel ou des anciens ou d'un pasteur, parce que le jugement était mauvais, alors la personne est partie, mais ailleurs, ce qu'elle a fait a été béni de Dieu. Et aujourd'hui, ça prend une proportion extraordinaire. Moi, je crois à vous qui allez marcher sur les eaux. Vous allez marcher sur les eaux. Mais oui. Vous croyez que vous allez marcher sur un terrain que uniquement vous allez connaître? Non. Vous allez marcher des fois dans l'inconnu. Mais l'assurance que vous avez, c'est que Dieu connaît déjà d'avance le chemin. Alors restez dans le calme, restez dans la confiance, restez dans la paix et dans la sérénité. Bien sûr, des fois on cogite, mais c'est Dieu qui nous tient. Voyez, je travaillais encore là sur le projet de la Sentinelle et je suis en train d'établir un budget, etc. Je me suis dit, mais j'aimerais qu'on puisse faire ceci, cela et développer. On est obligé de mieux structurer maintenant parce qu'il y a pratiquement plus de 1200 personnes maintenant qui sont engagées. Et donc, mon objectif, c'est que ça ne s'arrête pas là, mais que demain et après-demain, il y a encore le double. Je me suis dit, mais on a besoin de finances, on a besoin d'aide. Et la semaine dernière, je recevais un email d'un collègue pasteur américain en France. Il me dit, voilà, le comité américain a décidé de vous envoyer $1000 encore cette année pour vous soutenir dans la sentinelle de prière. On n'a rien réclamé, on n'a rien demandé. Mais ils ont vu l'œuvre. Et Dieu connaît nos besoins. Alors c'est vrai que même $1000, c'est une goutte d'eau dans ce que nous dépensons aujourd'hui, chaque mois. Mais je suis convaincu, parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce que nous dépensons porte déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et ça va changer la face de notre pays. Prends le risque de marcher sur l'eau. C'est-à-dire, prends le risque de marcher sur la parole que Dieu te donne. Et tu verras ce qu'il va faire avec toi. Amen. On prie ensemble quelques instants et puis on terminera un autre jour. Seigneur, ta parole est vraiment excellente. Nous avons tant de choses à apprendre de ta parole, tant de choses à connaître, à découvrir, tant de choses à comprendre et surtout tant de choses à mettre en pratique, Seigneur. Mais lorsque je vois ta parole s'éclaircir de cette façon-là et quand je vois mes frères, mes sœurs la mettre en pratique, la vivre, faire des expériences avec toi, Seigneur, cela réjouit vraiment mon cœur. Ça réjouit mon cœur, Seigneur, parce que petit à petit, ils grandissent avec toi. Petit à petit, nous comprenons ce que tu veux faire. Et ça se met en pratique. Et alors, expérience après expérience, nous nous appuyons sur ta parole. Et nous grandissons toujours un peu plus. Et nous avançons toujours un peu plus et nous allons toujours un peu plus loin. Et nous nous réjouissons de ce que tu fais. Quelle grâce, Seigneur. Et je te demande de continuer à amener mes frères et sœurs encore plus loin avec toi. Que chacun puisse apprendre à écouter ta voix, à marcher sur les eaux, à avoir cette confiance, comme David, de t'apporter toute situation, tout problème, et puis de te faire confiance. Et même parfois, lorsque nous sommes, peut-être que quelqu'un est comme Agar ce soir, maltraité, peut-être persécuté d'une certaine manière, verbalement. Seigneur, tu vas justifier ce frère ou cette sœur, cet ami. Tu vas justifier cette personne ce soir. Parce que tu vas d'abord lui donner la confiance que, peu importe ce qui peut lui être dit ou lui être fait, de toute façon, tout est dans tes mains. Et tu gères toute chose. Alors tu vas mettre cette confiance infinie dans le cœur de cette personne pour qu'elle s'attache à toi maintenant. Et je sais qu'il y a certainement quelqu'un qui est dans cette situation ce soir. Le Seigneur veut t'encourager et il te dit, fais-moi confiance. Ne cherche pas par toi-même. Laisse-moi faire. Laisse-moi accomplir. Laisse-moi prendre les choses en main et les accomplir dans ta vie. Tu n'auras qu'à constater, avec le recul et le temps qui passe, combien j'aurais été fidèle avec toi et de quelle manière je t'aurais soutenu et aidé dans ta situation. Prends cette parole pour toi, elle est pour ta vie. Elle concerne ton problème particulièrement. Aie confiance au roi des rois. Et tu verras que tu ne trembleras pas, tu ne bougeras pas, et il agira dans ta vie. Alors, Seigneur, merci d'aider mes frères et sœurs dans cette situation. Aide-les vraiment, Seigneur. Et que dans les semaines qui viennent, nous puissions avoir des témoignages de ce que les uns et les autres ont vécu, de quelle façon tu leur as parlé. Je te bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.